les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. C'est un plaisir de vous retrouver pour suivre le premier numéro de l'année 2022 qui a pour thème « Rentrer au pays, les coulisses de l'histoire ». Il s'agit du témoignage émouvant d'un voyage passionnant d'une Sénégalaise qui a immigré en France en 1996 et a décidé de retourner au bercail, c'est-à-dire dans son pays d'origine, après plus de 20 ans passés à l'Hexagone. Quel courage d'y retourner son titre de séjour, immigrer dans son propre pays, est-ce possible? Comment et pourquoi ce retour au pays est un mythe ou une réalité? Qu'est-ce qui s'est passé dans la découverte de la France? Autant de questions que va répondre notre invité ce soir. Nous sommes donc en ligne depuis Dakar au Sénégal en Afrique de l'Ouest avec Fatou Diengué, notre invité. Bonsoir Fatou.
Bonsoir madame.
Merci infiniment d'avoir accepté de répondre sans tabou à toutes nos questions. Fatou, qu'est-ce que ça vous a fait de revoir Dakar après plusieurs années?
Revoir Dakar après plusieurs années, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un dépaysement. Je suis comme quelqu'un dans une île perdue. Je ne reconnais plus rien, je ne sais plus rien. Je ne reconnaissais même plus les habitants avec qui je marchais, avec qui je parlais. C'est comme si je venais de naître, comme si je venais de venir dans ce monde.
Donc vous êtes retrouvé immigré dans votre propre pays?
Je suis immigré dans mon propre pays. Et le problème est que je suis dans mon propre pays et on ne me considère pas comme une Sénégalaise au moment où je vous parle. Et je ne suis pas française. Parce que pour eux, durant tout le temps que je suis restée en France, je dois être française. Donc j'ai du mal à trouver une place. Mais c'est un combat, il le faut. Je suis d'ici, je n'ai pas le choix. Il faut que je cherche ma place.
Et vous êtes retournée à Dakar en quelle année?
Je suis retournée en 2021, le 22 décembre 2021. Le père Philippe de Kergodwe, cet ange qui m'a hébergé, qui m'a donné à me nourrir, qui m'a même cherché un billet et l'argent de frais de voyage.
Et on va y revenir, mais qu'est-ce qui...
Je dois beaucoup cet homme.
Et qu'est-ce qui a été à l'origine du déclic de votre décision de venir en France?
Ma décision en France, comme vous le savez, nous les Africains, on vit en SM, on vit en groupe. Je m'accompagnais avec des hommes qui étaient mes amis. Donc on buvait le thé, on écoutait la musique ensemble et tout. Quand ils venaient de voyage, ils étaient vraiment à l'aise. Ils avaient un comportement agréable. En ce moment, il n'y avait pas de visa. Eux, ils partaient sans visa, juste avec le passeport. Mais en ce moment, moi, je refusais de partir. Parce qu'il y avait ma mère qui était... Je tenais beaucoup à ma mère. J'étais une copine à ma mère. Je n'étais pas sa fille. J'ai fait le deuil pendant 3 ans. Ça fait 94, 95, ils sont venus, ils m'ont parlé. Je refusais. 96, ils ont réussi. À quelle époque j'ai vu. J'ai dit, c'est pas grave, ils m'ont dit, donne-moi mon passeport, après un dîner, donne-moi ton passeport, je lui ai donné mon passeport. C'était en rigolant, moi je croyais même pas. C'était un samedi, le mardi, ils m'ont amené mon passeport avec un visa. J'ai dit, oh, c'est pas vrai. Ils m'ont dit, oui, il faut que c'est vrai, tu dois venir en Europe, parce que tu es une brave femme, il faut que tu viennes en Europe. Sur le champ, j'ai ma soeur qui est venue déménager la chambre que j'avais louée. Dans un banlieue. J'ai pris mon sac à dos, j'ai mis mes affaires, 2 habits là-dessus. C'est comme ça que j'ai pris la route de la France. Et comme on est attaché à la France, c'est l'histoire qui nous a fait attacher avec la France. On s'entend bien avec les Français. Donc les Sénégalais aiment bien la France. C'est pour ça que je suis arrivée en France.
Vous avez quitté donc le Sénégal en avril 1996. Pour la France, et une fois arrivé, qu'avez-vous fait?
Une fois arrivé, elle et avec mes frères. Je n'avais pas les problèmes pour manger. Je dormais parmi eux, entre les hommes. Et c'était mes frères, ce n'était pas méchant. Vous savez, les Africains, c'est les Africains. Hein. Ils cherchent à vivre. Il y avait des choses qui sont arrivées. Je ne pouvais plus dormir avec eux. Il y a certains qui étaient là-bas, qui m'ont vu un hôtel à Saint-Ambroise. L'hôtel, ils l'ont payé 2 mois. L'hôtel est trop cher. Ils ne pouvaient plus. Donc la guerre commence. La guerre commence. Je cherchais à être serveuse. Il y a un frère qui m'a amené à Couronne chez un Camerounais. Il m'a pris, me payer, c'était aux environs de 150 euros en ce moment. C'était pas l'euro, c'était le franc français. C'était avant 2001. Avec ce que j'ai gagné, ils me donnaient à manger. Certains d'entre eux me donnaient des coups de main. Je me débrouillais comme ça. Mais la situation était de plus en plus dure. Je ne savais pas quoi faire. J'ai cherché du boulot chez les Juifs pour faire du ménage. Ils ne voulaient pas m'embaucher parce que je ne suis pas régularisée. Donc, ils me donnaient des heures et ils me payaient par chèque. Je n'avais pas de compte bancaire non plus. Je mettais de l'argent sur le compte bancaire d'un frère et le frère retirait l'argent et me le donnait main à main. Ce n'était pas grand-chose. C'était des environs de 50 euros, 40 euros, 2 fois dans le mois, comme ça. Je me débrouillais de gauche à droite pour survivre.
Et vous n'avez pas cherché à vous régulariser?
J'ai cherché à me régulariser à plusieurs fois. Parce que j'étais même dans le mois de sans-papier en ce moment. Le siège était à Couronne. Mais à chaque fois qu'on devait nous régulariser, moi, je n'étais pas sur place. Je n'étais pas libre. Je n'ai pas pu être régularisée.
Et vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais entre 26 ans et 28 ans.
Nous allons à présent marquer une pause musicale. Thank you. Fatou, dans votre récit que vous m'avez envoyé, que j'ai lu, vous avez dit que vous avez eu à faire des bêtises. Quelles sont ces bêtises?
Ce que j'appelle les bêtises, c'était des bêtises nécessaires pour moi. Parce que j'avais frappé à tout prix. Ça devient de plus en plus dur. Donc, je suis tombée dans le trafic de drogue. Vous m'excusez, c'est pas joli à entendre. Je
Non,
savais très
mais
bien
oui,
les
on va parler sans
conséquences.
tabou, oui. Allez-y.
Oui, je savais très bien les conséquences. Je savais bien que c'était interdit. Mais ça fait que prendre cette route, des fois, pour pouvoir survivre. J'avais laissé mes frères qui avaient fait leurs études et qui n'avaient pas de boulot. J'avais laissé mon père qui n'avait rien. Il fallait que de temps en temps, j'envoie un peu pour la popote. Donc, je me suis cassé la tête. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire comme tout le monde. Même si je rentre en prison, peut-être que je vais leur aider. C'est ça.
Qu'est-ce que vous
Corps
faisiez?
et âme. Nous, en ce moment, il n'y avait pas trop de femmes qui rentraient dans le réseau. Parce que c'était dans les restaurants que les Africains vendaient la drogue. Donc, nous, on était les femmes. Quand les policiers rentraient dans les restaurants, c'est nous les femmes qui gardaient la drogue. Donc, les policiers avaient vraiment le respect sur la gent féminine. Ils ne nous touchaient pas. Et après leur départ, ils nous donnaient quelques billets, quelques trucs comme ça, manger et trucs. Donc c'était une forme d'exploitation, parce que nous, on n'a pas du tout bénéficié là-dessus. Mais j'avais que ça pour survivre.
Donc l'argent de
C'était
la
ça
drogue
ou
ne
la
vous servait pas vraiment à grand-chose.
rue. Non, c'était ça ou la rue. Nous, on ne servait pas à grand-chose. Et quand il y avait les pépins, quand les policiers ont découvert ça, c'est nous qui allions en prison. J'ai séjourné à maintes reprises en prison.
Et pour la première
J'ai
fois en
fait
prison,
frère,
vous avez fait
j'ai
combien
fait.
d'années?
Là, j'ai fait 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans et demi, mes parents ne savaient pas si je vivais ou j'étais morte. Ils avaient même fait le deuil comme quoi que j'étais perdue dans la nature. Le jour que je suis sortie, j'avais plus de numéro de téléphone, j'avais plus rien dans la tête. J'ai rencontré un Africain qui m'a dit, j'étais au Sénégal, j'ai vu ta soeur qui a pleuré, qui est tombée sur moi parce qu'il voulait tes nouvelles. Donc, il a appelé son frère à lui, son frère est parti chercher ma soeur. Et ma soeur est venue. Toute la famille était là, on dirait que c'était un deuil. Ils ne savaient pas que j'étais en prison, ils ne savaient pas que j'étais mort, ils ne savaient rien. Ils ont fait mon deuil pendant que j'étais en prison.
Et quand vous êtes
Et j'ai
sur...
attrapé la balle à tuberculose. À Fleury-Mérogis, ma première peine, j'ai attrapé une pneumonie. En ce moment, il y avait aussi la surpopulation carcérale. Les cellules de 2 personnes, c'était 4 personnes qui vivaient là-dedans. Tous les ils ne sont pas tellement dans les gènes. Donc, j'ai attrapé une tuberculose. J'ai failli mourir. Et le médecin de Fleury ne connaissait pas, c'était en arabe que j'avais la tuberculose. Il me traitait d'autres choses. On m'a évacué à l'hôpital Fred. Heureusement pour moi, j'ai trouvé une dame arabe qui s'appelait Fatima. C'est Fatima qui les a conseillé faire des tests de maladies tropicales. Et c'était positif. J'avais une poche d'eau. Je saignais vers le nez, je crachais du sang. Il manquait de fonction et je suis sauvée de ça. Il y avait une directrice qui s'appelait Madame Marchal. Je n'oublie jamais son nom. C'était une Allemande. Elle m'estimait. Vous savez, la prison, il faut payer la télé. Je n'avais pas de quoi payer la télé parce que j'avais personne. En ce moment, je ne connaissais personne. Il n'y avait personne qui m'en envoyait, ni m'en donnait rien. Un jour, elle m'a convoqué. Elle m'a dit, je vais donner la télé jusqu'au jour de ta sortie. J'ai dit, d'accord. Elle a dit à la fille qui était à l'entretien, on va prendre une télé, tu poses à madame. Jusqu'au jour de ma sortie, la télé était avec moi. Ça m'a soulagée. Donc, dans mon malheur, j'ai rencontré des gens bons.
Et comme vous êtes sorti de 2 ans de prison, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Vous étiez encore retourné dans le trafic de drogue, c'est ça?
Quand j'ai sorti en prison,
Oui, après votre maladie.
pendant cette incarcération, j'ai connu un prêtre qui s'appelait Yves Boué, frère à son âme. Il vient de rendre là. Yves Boué venait visiter les femmes à la mort de Fleury de Mérogis. Et ça passait entre nous, il m'a pris comme sa fille. Et avant ma sortie, il a réglé de façon que je trouve une place à 91, à Saint-Geneviève-de-Bois, au foyer de Saint-Geneviève-de-Bois. À ma sortie, avec une interdiction définitive à la mer, en ce moment, on ne nous amenait pas au centre de rétention. Il n'y avait pas de centre de rétention. On nous laissait à la porte et on nous donne un papier comme quoi vous devez quitter le pays sous 48 heures, ce qu'on ne respectait pas du tout. Donc, il est venu me prendre devant la porte et m'a amené au foyer. Au foyer, on m'a donné une chambre, il y avait la cuisine commune et tout cela à Saint-Geneviève-de-Bois. Je commence à aller à Paris pour regarder mes connaissances parce que là-bas c'est éloigné et je suis perdue, je suis sortie, je ne sais pas quoi faire. Et quand je partais à Paris, j'ai trouvé les mêmes gars qui étaient au restaurant et tout. Et ils m'ont dit non, 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 c'est pas possible. Saint-Geneviève-de-Bois, c'est un peu éloigné de la ville. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu ne trouves pas de boulot, tu fais rien. Viens avec moi. C'est comme ça que je me suis retournée là-dedans encore. C'est à ma deuxième peine que j'ai passé à Fresnes que j'ai connu Père Philippe de Kergorlé, par le biais de Père Yves. Il venait aussi visiter les filles à la masse à Fresnes dans le 94. Dieu a fait que ça passe entre nous. Il m'estime, il m'a trop aidé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si je commence à citer ce que Père Philippe a fait pour moi, on peut rester 10 jours, je ne vais pas finir ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu le garde, je ne peux pas le remercier.
Au total,
Je réitère, parce que je n'avais pas le choix. C'était un moyen de survie pour moi, parce que je ne voyais pas autre chose. Je cherchais à m'en sortir de toutes les manières. Au total, dans les 20 ans que je suis restée à l'Hexagone, j'ai passé presque plus de 13 à 12 ans en incarcération.
I just can't wait till the day when you knock.
Donc vous avez passé près de 13 ans en incarcération, c'est parce que vous êtes en train de récidiver, c'est ça? Donc vous retombez toujours dans ce trafic de drogue, c'est ça?
Oui,
Donc on peut
c'est
dire
ce qui m'a
que...
poussé à retourner au
À
pays.
retourner. Mais donc c'est-à-dire que d'abord, les 2 ans que vous
Parce que
avez eu à passer en prison, ça ne vous est pas effrayé? Ça vous a pas fait peur?
si, ça m'a fait peur, mais quand vous sortez, vous voyez votre entourage qui ont fait, qui avait commencé avant vous, qui était dans ça, ouais. J'ai cherché encore à faire le ménage, à faire ceci, cela, ça passait pas. Parce que je suis bloquée, je suis sans titre de séjour, j'ai pas le choix. C'était ça ou la rue, voire même la mort. Parce qu'il fallait manger, il fallait dormir, et je suis une femme. Et Dieu merci, je ne voulais pas tomber dans la prostitution. Dieu m'a sauvée jusqu'à présent. 20 ans que j'ai passé en Europe, je ne me suis jamais prostituée.
Et c'est comme ça que ça vous a donné le courage de partir, de retourner au Sénégal?
Oui, à ma dernière peine, quand je suis sortie, c'est toujours le père Philippe qui m'a hébergée, qui m'a donné de quoi manger et tout. J'ai cherché encore à retrouver du boulot et tout ça. Et je me suis dit, je prends de l'âge. Et j'ai perdu mon père derrière moi. Ma mère est décédée avant mon arrivée. Tous les membres de ma famille, la majeure partie, ils sont plus de ce monde. Je suis plus jeune. Et si je meurs ici, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai cogité, j'ai parlé avec Père Philippe qui m'a encouragé. La crise s'accentue. La France n'est plus comme la France d'avant, ni la France d'antan. Donc maintenant, ça devient de plus en plus dur. Je n'ai même pas préparé, j'ai rien acheté. C'est Père Philippe qui a regardé cet internet, qui m'a pris un billet, qui m'a laissé dans sa chambre, qui m'a donné à manger et à boire. Puisque je ne demandais pas, il m'a donné l'argent de voyage. J'ai amené les habits et avec quoi je suis sortie de prison. Je n'ai même pas acheté rien, quoi que ce soit. Et je suis descendue dans un pays comme un inconnu. Je suis restée 6 mois, je ne savais pas où aller, je ne pouvais pas bouger toute seule. Il fallait qu'on m'accompagne. Donc, je suis immigrée chez moi. Et là où j'ai quitté, je ne suis pas de là-bas. Mais comme les jeunes.
Et vous n'avez pas pu bénéficier de l'aide financière de l'État, l'aide au retour volontaire donnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration? Non?
Je suis passée là-bas, mais c'était pas. C'était très peur. Parce qu'en ce moment, on avait déjà pris le billet. Je ne me suis pas préparée. Je me suis levée au jeu. J'ai dit oui, mon père, achète-moi le billet, je m'en vais. Quand je suis allée à l'office, on m'a dit que c'est trop tard. Il fallait venir 6 mois avant. Et moi, je ne voulais pas encore rester les 6 mois de plus. Parce que c'était dur. Et il y a quelque chose qui me disait qu'il fallait rentrer. Il fallait rentrer. Donc, j'ai quitté la France à la hâte. Comme ça.
Et quand vous êtes arrivé au Sénégal, comment est-ce que vous étiez
Difficile,
accueilli?
ça.
Et comment est-ce que vous étiez accueilli? Tout en sachant que quelqu'un de la diaspora, une compatriote retourne au pays, notre sœur ou notre enfant retourne au pays, comment est-ce que vous avez été accueilli?
Comme je vous dis, nous, Africains, on est épatés par l'Europe. Bon, c'est la civilisation, c'est normal. C'est le pays industrialisé. Nous sommes les avancés. Le Sénégal fait partie de ça. Donc, quand on vient de l'Europe, que tu es venu riche ou pauvre, tu dois avoir de l'argent avec toi. Tu dois être à l'aise. Les premiers mois, les premiers jours, tu es bien accueilli parce qu'ils vont croire que tu vas les aider, parce qu'ils sont dans la galère, c'est cela. Donc, ils ne savent pas que moi, j'étais plus dans la galère que eux qui sont restés ici.
Justement, quoi,
C'était ça.
c'est ça le danger qui guette des personnes qui reviennent avec
Voilà.
des proches qui s'imaginent que les migrants de retour sont des gens fortunés, quoi.
Voilà. Pour eux, quand l'immigrant vient, il doit être fortuné. Alors que c'est pas ça, c'est pas le cas. Il y a des gens qui quittent la France avec moins de 50 euros dans leur poche. Moi, j'en connais beaucoup. Moi-même, j'ai eu la chance parce que le père Philippe est là. Il m'a donné un coup de main. Mais j'en connais des compatriotes qui sont venus, quand à l'aéroport, ils avaient 50 euros dans leur poche, pas plus que ça. Et ils ont laissé femmes, enfants et toute une famille ici qui les attend.
Est-ce que votre famille est au courant de votre voyage en France, de tout ce qui s'est passé, de votre parcours en France?
Non, ils ne savaient pas ce que je faisais parce que je ne le disais pas plus. Voilà, ils étaient dans le coma. Quand mon père mourait, j'étais à Rennes. On me l'a caché, je ne le savais pas. J'avais une peine de 4 ans et demi, ou 5 ans, je ne sais plus. C'est un jour que j'ai reçu un courrier, je suis tombée évanouie. Mon père est décédé pendant 6 mois. C'est au 7e mois que je le suis. Je suis tombée évanouie. J'ai eu la dépression pendant 3 mois. Je partais à l'infirmerie avec le psychologue. Et pour prendre un traitement et parler, vider mon sac. C'était tout. Je n'ai pas vu mon père. Quand je parle de mon père, je suis émue. J'ai trouvé que ça tombe. Il m'a fait plus mal d'amour en immigration. Parce que même si je n'ai pas annulé l'argent, ce n'est pas un problème. La vie, ce n'est pas l'argent. Ça complète la vie. Mais mon père, que je n'ai pas vu, qui m'a demandé où est Fatou, où est Fatou. On l'a amené une autre personne, mon homonyme qui s'appelle Fatou, pour lui dire que c'est moi. En ce moment, il a répondu, quel type de naissance? C'est ça qui m'a plus touchée dans ma vie. C'est ça qui m'a plus touchée. C'est émouvant. J'ai prié Dieu qui me donne de la force d'aller de l'avant, de me donner la santé. Je peux en faire autrement.
Et qu'est-ce que vous faites maintenant à Dakar? Vous vous occupez de quoi?
Là, depuis que je suis arrivée, bon, comme vous avez les Africains, le peu que j'avais réussi à épargner, je ne l'ai pas trouvé ici. Ils l'ont mangé avec des explications, la philosophie africaine et tout cela. Donc, j'ai lu un studio où je paye 300 euros par mois pour faire un petit commerce de gauche à droite. Le père Philippe m'avait envoyé un capital de 1000 et quelques euros. Je me débrouille avec ça. La fin du mois, j'essaie de payer mon appartement et je marche de gauche à droite en attendant les bons jours. C'est comme ça que j'ai vécu au Sénégal.
Et quels sont les bons et mauvais souvenirs que vous gardez de la France? On parlera d'abord de mauvais souvenirs. J'imagine le fait de...
Mauvais souvenirs, ce sont le fait d'être absente, de ne plus être considérée comme un Sénégalais. Ça me fait mal. Le fait de ne pas voir mon père, ça me fait mal. Le fait d'être emprisonnée à maîtrise, alors que je n'ai pas pu gagner quelque chose, ça m'a fait mal. Mais de l'autre côté, dans mon malheur, j'ai trouvé des bons souvenirs. Je ne jette pas la pierre à la France, non. Parce que c'est un peu de ma faute. Et cette faute-là, je ne pouvais pas faire autrement. J'aime la France. Je sais que Français et Sénégalais sont la main dans la main. C'est l'histoire qui a instauré ça. Nous, Sénégalais, on aime la France. Et il y a des Français qui sont très bien. J'en connais. Dans mon parcours, j'ai trouvé de bons Français qui m'ont aidé. S'ils pouvaient me donner la nationalité française, ils allaient me la donner. Et ils ne pouvaient pas. Ils m'ont aidé surtout. Je n'ai pas regretté de voyager. Parce que quand j'étais en prison, j'ai pu poursuivre mes études. J'ai eu beaucoup de diplômes. Moi, je suis quelqu'une, j'aime bien les études. J'ai trop de diplômes en prison. J'ai eu mon diplôme de BP comptable. J'ai eu mon diplôme d'assistante comptabilité en prison. J'ai eu mon DAE en prison. J'ai eu mon diplôme d'horticulture en prison. Et les cours, ça me plaisait. Parce que l'histoire, j'ai connu beaucoup de choses en France que je ne connaissais pas quand j'étais en Afrique. D'un côté, je n'ai pas regretté de venir en France.
Donc, votre voyage en France a été une grande découverte, malgré les épreuves que vous avez eu à rencontrer, c'est ça?
Oui, malgré les épreuves, j'ai fait des découvertes, j'ai vu d'autres cultures, j'ai atteint d'autres horizons, j'ai connu d'autres personnes. Dans la vie, il faut découvrir, il faut savoir, il faut rencontrer d'autres gens, il faut écouter les autres pour pouvoir en bénéficier de leur intelligence. C'est ça la vie.
Et que pensez-vous de l'immigration en général? Pour les jeunes qui veulent immigrer, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Vous avez la plusieurs sortes de migration. Les gens qui viennent parce qu'ils sont harcelés dans leur pays, eux, ils n'ont pas le choix. C'est sortir de leur pays ou la mort. Mais les immigrations...
Entre guillemets, économiques, quoi, que les jeunes veulent risquer oui, pour gagner la vie.
Économique pour gagner la vie sans aucun diplôme, moi, je ne le conseille pas ça. Parce que maintenant, la crise a accentué. Ça a commencé en Europe, maintenant aux États-Unis, maintenant c'est en Europe, maintenant c'est dans le monde partout. C'est pas la faute de la France, c'est le monde entier. Et la crise devient de plus en plus dure avec la pandémie et de toutes sortes de maladies qui sortent. Un immigré qui n'est pas diplômé, c'est pas la peine qu'ils immigrent, pour moi. Surtout à cette période-là. Parce qu'il y a des gens en France qui sont surdiplômés, avec de très hauts diplômes de maths. Appeler des trucs comme ça et qui ne trouvent pas de boulot. Ou bien, ce qu'on leur paye, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Ils ont son père cher, la nourriture est chère, il faut payer la voiture. On connaît le quotidien de la France. Un immigré sans diplôme, ça ne veut plus la faire.
Et nous tendons vers la fin de cette émission. Fatou, vous avez un dernier mot?
Un dernier mot, je vous remercie toutes. Je ne suis pas rancunière, c'est pas la France qui m'a poussée à quitter mon pays pour partir. Il faut être logique dans la vie. C'était mon destin. Je n'ai pas regretté de découvrir ma France. Je suis très contente de vous connaître. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. Le père Yves Boué, qui a rendu l'âme il y a même pas un mois. Le père Philippe de Kergolé, que je ne peux pas remercier jamais, jamais dans ma vie. Et vous-même que je viens de connaître, vous m'apaisez. Rien que de vous entendre, Madame Boué, j'ai le cœur apaisé. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Je remercie la France. On est des frères, on est des sœurs. Merci infiniment.
Et vous avez conclu votre récit que vous m'avez transmis. Vous avez écrit: je n'ai rien trouvé de ce que je croyais épargné, même mes vêtements et mes bijoux. Je crois en Dieu, je serre à nouveau ma ceinture, essaye d'aller de l'avant. Donc là, c'est très fort quand même pour vous. C'est vraiment un côté positif que vous essayez de voir maintenant et aujourd'hui la vie autrement. Et nous vous souhaitons en tout cas bonne chance.
Merci, maman. Bonne chance. Bonne continuation avec beaucoup de succès. Merci.
Merci beaucoup. Rentrez au pays, les coulisses de
Au
l'histoire. Au revoir. C'est le thème de l'émission de ce soir que nous avons eu à échanger avec Fatou Dienge depuis Dakar au Sénégal. Donc, si vous avez constaté quelques couacs au niveau de la liaison téléphonique, prière de nous excuser. En tout cas, vous l'avez suivi. Elle était en France depuis 1996 et c'est l'année dernière, donc en 2021, qu'elle a dû quitter la France sans aucune aide ni un projet préétabli, tout ça. Parce qu'elle n'arrivait toujours pas à être régularisée et elle s'est retrouvée 13 ans en prison au total, on peut se le dire, suite au trafic de la drogue. C'était pas de sa faute, c'était au fait le milieu dans lequel elle évoluait. Donc, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de votre émission. Nous allons nous retrouver certainement la prochaine fois pour un nouveau thème. Merci d'avoir été avec nous. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.